Vivre en commun, l'émission de radio.
Et de retour dans les studios de Radio Coteau, donc pour la, évidemment, 98e émission. Et le sujet, ça vous a pas échappé, le sujet du jour, c'était l'accouchement à domicile. Et donc, ben, on s'est regroupé autour de la table. Nous sommes pas moins de 10 personnes, voire 15.
Moi, j'ai jamais vu la salle aussi pleine. En
fait. Ben oui, Cyril, tu vois, il y a du changement. Il y a de l'espoir. Et donc, c'est un sujet donc de l'accouchement à domicile. Ça fait un petit moment au sein de l'association et puis même dans le commun, nos amis. Les personnes qui sont autour de chez nous avaient très envie de parler de ce sujet-là. Ça fait donc pas moins d'un an qu'on s'est dit à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on l'aborde. Et ben c'est le moment, on y est. Donc un sujet qui est présenté donc par moi-même, mais aussi par Benjamin et Marguerite. Benjamin qui est donc président de l'association, producteur de légumes, qui donc est à ma gauche, et Marguerite qui est en face de moi, que vous avez déjà entendu sur les ondes. On a fait la 87e émission, le sujet c'était sur la CNV.
Et c'est ça.
Voilà. Et donc tu proposes avec ton compagnon Johan des formations agricoles liées à la permaculture. Mmh. Et donc tu es productrice également de légumes. Donc voilà, c'est pour situer un petit peu les gens qui vont parler ce soir. On a la chance, la grande chance d'avoir avec nous Hélène Pariante qui est sage-femme libérale et qui a fait le choix d'accompagner les mamans à domicile. Et donc on est très très heureux de l'avoir avec nous. Merci Hélène.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Sans toi, on serait pas tous autour de cette table là pour ce sujet ici.
Voilà.
Y compris les petits qui gazouillent là.
Voilà, vous allez peut-être vous allez entendre certainement des enfants. On a envie de parler de choses vivantes. Alors on laisse la vie s'exprimer. Si ça fait trop de bruit, évidemment, on essaiera de calmer les ardeurs, mais on va tenter de vous laisser un petit peu l'atmosphère, d'être un petit peu avec nous dans le sujet. On était parti sur des choses un petit peu embêtantes. Une sage-femme, qu'est-ce que ça fait? Quelles sont les problématiques liées à ci, à ça? On a changé au dernier moment d'optique, de manière de structurer l'émission. Et on va poser des questions bateau, mais allez, une question comme ça qui me vient. Pourquoi accoucher à la maison maintenant, de nos jours? Et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Parce que c'est un choix aussi assez fort. Donc, je ne sais pas, qui veut se lancer? Cyril, peut-être, t'as la parole facile?
Facile, je ne sais pas. Oui, donc bon, mais c'est la question, quoi, d'abord. Mais en fait, c'est cette question, pour moi, elle ne se posait pas vraiment. C'était juste un petit peu comme dans tous les domaines de la vie, et surtout là pour ce sujet-là, c'est quand même un événement de la vie des plus importants qui est. C'est la première extrémité de notre vie sur Terre, l'arrivée, pour donner le meilleur de ce qui puisse être. À mon avis, la question se posait pas, on ne laisse pas pour moi un petit peu, enfin on laisse pas, j'avais pas envie de laisser ça entre les mains. Du système, voilà, c'est un petit peu comme l'école et plein d'autres choses. On peut faire ça soi-même. Une maman, c'est fait pour accoucher naturellement. Un point, c'est tout. Il y a plein d'artifices pas vraiment nécessaires, je me dis. Donc, voilà, la question, elle se posait pas. Ça s'est fait très naturellement. Si ce n'est quand même une grande raison, c'est que cette manière-là de le faire, ça m'a permis, en fait, ça nous permet de vivre pleinement cette magie. C'est de, voilà, pour vivre pleinement la magie de ce moment-là.
Tu peux comprendre que certains auditeurs donc, qui nous écoutent peuvent être.
Oui.
Oui.
Ouais, absolument, bien sûr. Ben oui, c'est l'hôpital, évidemment. Mais après, je ne veux pas cracher non plus sur les autres pratiques et tout ça, c'est aussi... D'ailleurs, je me dis que heureusement, il y a encore beaucoup de naissances dans les hôpitaux, parce que c'est des lieux quand même chargés de négatifs et de souffrances. Et s'il n'y avait pas ces naissances-là pour amener concrètement de la lumière dans ces lieux, on serait mal dans les hôpitaux. Ouais, heureusement qu'il y a des enfants qui préfèrent naître dans des hôpitaux.
Et il y en a quand même beaucoup. Il faudrait peut-être rappeler que l'accouchement à domicile en France, c'est très minoritaire. Je ne sais pas les chiffres, mais ça doit être 0, quelque chose pour cent. Donc ouais. C'était aussi pour ça qu'on avait envie de démarrer l'émission sur cette question de pourquoi accoucher à domicile, vu que ça semble quelque chose de presque très rétrograde, quelque chose du passé. Voilà, il y a un siècle, il y a beaucoup de gens qui naissaient à la maison. Aujourd'hui, c'est très rare. Donc voilà, d'où la question du pourquoi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... prendre le micro pour pouvoir justement répondre à cette petite question bateau qui est pourquoi certains parents ont choisi d'accoucher à la maison, à domicile.
J'ai l'impression que Chloé a envie de parler sur ce sujet-là.
Oui, merci. En fait, je rejoins Cyril. Effectivement, j'ai l'impression que pour moi non plus, la question c'est pas vraiment posée parce que je crois qu'inconsciemment, j'ai toujours... je me suis jamais... imaginer accoucher à l'hôpital. Sur ma route, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que c'était possible d'accoucher à la maison, ça m'a semblé naturel. Et puis en voyageant dans des pays où l'accouchement à la maison est encore
la norme, pratique.
Une part importante.
Et bon, qui se passe pas toujours bien du coup, mais qui est naturel et dans l'ordre des choses, et de discuter avec des femmes qui me racontaient qu'elles avaient accouché sur le tabouret devant l'âtre, je trouvais ça beaucoup plus beau et ça me disait que dans le monde dans lequel on est, dans la vie occidentale, mais j'aimerais être plus proche de la nature et de la vie, et donc accoucher à la maison, c'était une manière d'être comme ça. Voilà. Et pour mon compagnon, ça a été un dialogue à tous les deux, et le fait d'être accompagné l'a rendu possible. Mm-mm.
Donc, accompagnée par Hélène.
Par Hélène et ses assistantes.
Non. Ses consoeurs.
Et ses consoeurs.
Mes collègues, oui, mes collègues. Oui.
Par Julia et Louise.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre à. Enfin, répondre, j'entends à. Ouais,
vas-y. Bastienne.
Alors moi, j'ai eu l'impression de jamais rien faire comme les autres. Donc, quand j'ai été enceinte, je suis allée voir mon médecin. Et puis, en parallèle de ça, j'avais connu le collectif dans lequel je vis actuellement. Et j'avais rencontré des personnes qui avaient accouché à la maison. Et je me suis dit, ah tiens, c'est possible de faire autrement. En fait, j'avais pas d'idée de comment, ni même de où accoucher. Et du coup, ça m'a donné cette vision, cette possibilité de faire autrement. Et voilà, du coup je me suis embarquée sur ce chemin-là.
De l'accouchement alternatif. Ouais, donc on voit, il y a plein de motivations différentes. Donc Cyril, ce que tu disais, c'était presque un peu une vision politique, non ? J'ai fait ma maison, je fais mon jardin, je peux faire aussi mon bébé.
Ouais, ça c'est une part de la chose. Mais...
Ouais.
Et puis t'as aussi la magie.
Voilà, t'as aussi parlé de magie, Chloé de ce lien avec la nature, quelque chose qui lui paraissait plus naturel. Beaucoup de motivations différentes.
C'est vrai que comme tu dis, c'était pour moi l'aboutissement. Mon enfant qui est né dans la maison qu'on a fabriquée, qu'on a construit, c'était la clôture, un peu l'aboutissement de l'habitat, voilà.
Le do it yourself.
Ouais, complet.
Complet.
Et j'ai envie de rajouter aussi que le fait d'accoucher chez moi, je me suis dit waouh, en fait, c'était vraiment un chemin et une occasion d'avoir confiance en moi, de faire confiance à la femme que je suis et me rapprocher de mon instinct et vraiment, voilà, vraiment un acte de confiance en la vie et en la femme que je suis. Ouais. Donc c'est ça que j'avais envie de vivre.
Lorraine, peut-être tu voulais nous dire deux mots aussi sur, sur l'événement d'accoucher à la maison qui a eu lieu pour toi il y a très peu de temps. On le sent encore tout frais.
En effet, même raison, l'idée c'est d'accoucher dans un lieu qui t'est cher et pas dans une chambre froide que tu connais pas, être dans ton cocon, dans ton intimité. Et je trouve que voilà, même pour ton enfant qui soit arrivé dans un lieu qui est chargé d'émotions, c'est important. Et puis un peu, je me voyais, je m'imaginais mon accouchement et je me voyais à l'hôpital et en fait, je me voyais pas être avec 15 personnes qui rentrent, qui viennent dans la salle, qui t'osculent toutes les 30 secondes, qui vous disent bon, ou alors qui t'impose un rythme qui est pas ni le tien ni celui de ton enfant pour l'accouchement. Pareil, je sais pas, je m'imaginais aussi avec un monitoring fœtal, imagine c'est ton accouchement est long et t'as un truc qui bip, qui sonne toutes les 30 secondes. Je voyais pas comment être détendue et être responsable de ce moment-là hors de chez moi, en fait. Donc c'était même pas... en imaginant mon accouchement, c'était impossible de l'imaginer pour moi à l'hôpital. Il y avait que du stress, une ambiance froide. Voilà. Donc c'était un peu, ça s'imposait de fait, quoi. Voilà. Et on a bien fait.
Moi, je suis peut-être la seule parmi vous, mais pour moi, ça s'est pas forcément imposé de fait pour ma première. Et d'ailleurs, je m'étais dit, la nature est vraiment bien faite, qu'il nous laisse 9 mois pour réfléchir. Parce que si on m'avait demandé tout au début, je sais pas quelle décision j'aurais prise. Et sans doute la décision majoritaire, c'est toujours la plus facile. Et moi, c'était au fil des rencontres. Pendant ma première grossesse, j'ai parlé avec beaucoup de femmes. Et voilà, un sujet qui m'avait jamais vraiment intéressée jusqu'ici. Là, tout d'un coup, dès que je rencontrais une femme qui avait un enfant, je lui disais, et ton accouchement? Raconte-moi. Et donc d'avoir beaucoup de témoignages de femmes qui avaient accouché à l'hôpital et d'autres qui avaient accouché à la maison, c'est ça qui m'a permis aussi de me construire cette conviction que moi j'avais envie que mon accouchement puisse avoir lieu de cette manière-là, quoi.
Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte parce que en l'occurrence nous, ça, on a autour de nous plein de gens qui ont accouché à la maison, et c'est vrai que quand t'as pas cet entourage-là, je pense qu'en effet t'as raison, c'est une question que tu te poses pas, tu te dis bon je vais à l'hôpital, parce qu'après dans ton entourage à tout le monde qui te dit non mais attends, mais moi si j'avais accouché à la maison, mais moi je serais morte, mais mon enfant serait mort, mais machin. Et en fait quand t'es dans un environnement où tu sais que c'est une possibilité, ça fait son chemin, et puis après tu vois que oui, en fait c'est une solution qui devient naturelle pour toi. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir dans notre entourage des gens qui accouchent à domicile, en effet.
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait répondre à cette question ou de pourquoi accoucher à la maison?
Alors je me lance. Moi c'est oui, donc la compagne de Cyril. Du coup il y a le côté évidence aussi. Je pense qu'avant de tomber enceinte, il y avait une ou deux personnes dans notre entourage qui avaient fait cette pratique, et moi ça m'avait surprise parce qu'en fait c'est presque, je pensais que ça se faisait même plus, que c'était même plus possible, alors que là c'était le moment de réaliser qu'il y a 60 ans ou plus, c'était vraiment la pratique courante. Voilà, donc ça m'avait permis de cheminer. Et du coup quand je me suis retrouvée confrontée à, sachant que j'ai aussi peu pratiqué les hôpitaux, donc pour moi ça a toujours été associé à quelque chose, maladie, difficile, quelque chose de froid, c'est certainement pas un endroit où j'avais envie d'aller mettre au monde. Donc il n'y avait pas une crainte ou une phobie des hôpitaux, mais juste voilà, les hôpitaux, c'est si c'est nécessaire, s'il y a besoin, on y va. Mais j'ai pas dans ce réflexe. En tout cas, ça me paraissait pas du tout envisageable de le faire pour mon accouchement. Donc, quand je suis tombée enceinte, du coup, la première question, c'était comment on accouche à domicile, vu que c'est encore possible. Et donc, j'avais fait une recherche de trouver 2-3 personnes. Déjà, c'était pas énorme. Et en plus, une seule, en fait, qui pouvait, cette fameuse Hélène Pariente. Notre déesse. Une seule qui pouvait faire cet accompagnement. Et voilà, ça tombait bien. C'était au tout début, elle était encore dispo. Et c'était vraiment le soulagement, parce que je m'imaginais pas. J'imaginais pas que ça aurait pu se passer autrement. Vraiment, c'était quelque chose de plus que naturel. C'est que c'était ancré profond. Et comme en plus j'ai aussi une nature un peu sauvage, là je rejoins Lorraine dans ce qu'elle disait tout à l'heure, l'image de se retrouver entourée de, dans un moment si intime, de se retrouver entourée de tellement de gens impersonnels qui sont là dans des actes techniques. Il y avait et puis cette crainte aussi que l'hôpital puisse finalement par leur principe de précaution et que eux ils veulent pas prendre de risques, ils soient obligés de faire tellement d'actes qui soient inutiles et qui cassent finalement tout le processus naturel qui fait que, voilà, aujourd'hui, on ne sait plus comment accoucher sans ces aides médicales.
Mmh. Et bien du coup, puisqu'on ne sait plus exactement comment il faut faire, Christophe avait envie de vous proposer une petite bande-annonce d'un documentaire qui s'appelle « Accoucher autrement ».
Nous apercevons qu'en ce qui concerne l'accouchement, comme en ce qui concerne beaucoup d'autres aspects de l'histoire de l'espèce humaine, nous avons atteint des limites, à tel point qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on peut dire que le nombre de femmes qui mettent au monde leur bébé et le placenta uniquement grâce à la libération de leurs hormones naturelles, ce nombre est devenu insignifiant. Quand on sait que les hormones naturelles qu'une femme libère pour mettre au monde bébé et placenta, elles sont considérées aujourd'hui comme des hormones de l'amour. C'est sérieux d'avoir rendu inutiles les hormones de l'amour.
Les plus beaux accouchements que j'ai accompagnés, c'est où je n'ai rien fait et où j'ai osé la première fois laisser la maman faire.
Aujourd'hui, on est dominé par un conditionnement tel que pour la plupart des gens, une femme n'est pas capable d'accoucher par elle-même.
Les femmes ont réellement des ressources endogènes, ça veut dire des ressources naturelles, dans leur corps pour bien accoucher.
Quand on regarde les chiffres de morbidité et mortalité périnatale, ben la France, elle n'est pas très bonne hein, dans ces chiffres-là. Et pourtant, on est un des pays les plus médicalisés d'Europe. Par contre, dans les autres pays où on médicalise nettement moins, eh ben, on retrouve des chiffres vachement meilleurs. Et c'est des pays qui pratiquent l'accouchement à la maison, 30% aux Pays-Bas, par exemple, mais ils ont une politique qui fait que je crois qu'au niveau classement européen, ils sont deuxième ou troisième pays avec le moins de risques quand même. Et alors que c'est là qu'on pratique le plus de naissances, autre qu'en structure.
J'ai pris connaissance qu'on pouvait accoucher à la maison et du coup dans le respect vraiment de l'enfant, le respect de la famille, du cocon familial. L'idée c'est vraiment de t'impliquer davantage dans l'accouchement. On ne sait pas ce qui va se passer, il faut laisser des portes ouvertes.
Il ne s'agit pas de faire la promotion de l'accouchement à la maison ou de l'accouchement dans la maison de naissance ou de l'accouchement en milieu hospitalier. Il ne faut pas opposer les milieux de naissance naturels et les milieux médicaux. C'est le même conditionnement culturel.
Le problème, il est là en France. On fait des prises en charge où on cherche la pathologie au lieu d'accompagner la physiologie.
On ne changera pas le monde sans changer d'abord la façon de naître.
Même si on essaye d'ouvrir, même s'il y a des tendances à essayer de faire plus de physiologie à l'hôpital, on reste limité par la densité d'activité et, bien sûr, le manque de sages-femmes.
Moi, je jette la pierre à personne, mais quand tu as 20 femmes et que tu n'es qu'une sage-femme, ben, tu n'as pas le temps de te poser. Donc, c'est je te prends la température, la tension, je regarde si tout va bien, ça va, bon, ben, au revoir, hein, et hop, on referme la porte.
Et quand tu vois les pays nordiques où il y a des 15 à 17% de péridurale dans ces pays-là en structure, tu sais qu'il y a une sage-femme pour une femme qui accouche. Quand dans les hôpitaux français, on a une sage-femme pour 3 ou 4 femmes en travail en même temps, tu comprends la nécessité de la péridurale, pas tant pour la femme des fois, hein, mais surtout pour l'équipe, quoi.
Quand on entend des professionnels qui disent « il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, la péridurale, ça ne crée aucun effet », c'est faux. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir plus de forceps, puis de ventouses, puis plus de césariennes pour détresse fœtale.
On est déjà en mesure de dire que jusqu'à présent, on avait très probablement sous-estimer les conséquences à long terme de la façon de naître.
D'où ça vient, ce phénomène aussi aigu d'accouchement douloureux? Alors, je vous dirais qu'il y a une grosse partie qui est une construction mentale. Il y a aussi l'absence de capacité à activer nos ressources. Puis après, il y a les interventions obstétricales qu'on fait qui font que les femmes ont des accouchements douloureux. La préparation physique est fondamentale. Donc, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, ça ne réglera pas le physique. Vous allez accoucher dans votre corps.
Il n'y a pas le guide de l'accouchement sans péridurale. Hein? Il y a, écoute, laisse parler ton corps, fais-toi confiance en tes possibilités,
on va s'aider de ça, 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 si ça te convient. En fonction du tempérament qu'elles ont, on peut les renvoyer vers d'autres alternatives, l'hypnose, la sophrologie, le champ prénatal. Mais la préparation est indispensable et c'est vrai qu'effectivement, quand tu les informes correctement, ça aide au relâchement, ça aide à la détente, ça améliore la qualité du col, donc tu bénéficies souvent d'un travail plus rapide.
Les parents, ils doivent s'informer. Ils doivent comprendre pourquoi on pourrait faire autrement. On a le droit d'être acteur de notre accouchement.
De retour autour de la table. Nous venons d'écouter donc la bande-annonce du documentaire « Accoucher autrement ». Beaucoup de choses ont été dites et peut-être est-ce le moment, Hélène, d'aborder ton métier et plus particulièrement développer ton approche que tu nommes, je crois, accompagnement global. Je me trompe ou pas ?
Oui, c'est bien ce que je pratique. Alors déjà, peut-être dire un petit point sur le... Donc on parle d'accouchement à la maison. Comme disait Marguerite, il y a très peu d'accouchements à la maison en France. On ne sait pas exactement les chiffres. On ne connaît pas bien non plus le nombre de sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile en France, à peu près 70. Donc on va dire qu'il y a à peu près peut-être environ 0,5% d'accouchements qui se passent à la maison, peut-être 1%, mais ce n'est pas très clair ces chiffres-là. Dans ces accouchements à la maison, il y a différents types d'accouchements. Il y a les accouchements non assistés, c'est-à-dire les gens qui choisissent d'accoucher seuls parce que c'est ce qu'ils estiment être la meilleure solution pour accueillir leur bébé. Et il y a les couples qui décident d'être accompagnés par une personne qui peut être en général une sage-femme, mais qui peut être aussi un médecin. Quelques médecins généralistes encore restent peut-être sur la place à faire des accouchements. Voilà.
Ok.
Ensuite, donc, du coup, dans l'essentiel des sages-femmes qui pratiquent les accouchements à la maison pratiquent l'accompagnement global avec cette idée un petit peu de rencontre avec les parents, de confiance établie au cours de la grossesse, parce que c'est un processus qui va réclamer un petit peu de temps, d'attention. Donc, du coup, le fait de se voir régulièrement va aider. Donc, se voir, on va dire, à peu près une fois par mois, faire une consultation éventuellement, un suivi de grossesse. Un petit peu médical, et puis aussi une préparation à la naissance où on va aborder les questions, par exemple de la douleur qui revient assez régulièrement. Donc on se voit régulièrement, donc on se connaît, nous les sages-femmes on connaît les parents, et puis les parents aussi nous connaissent. Et je pense que c'est Aurélie qui parlait d'un moment intime, le moment de la mise au monde de son bébé. Donc c'est vrai que c'est aussi basé, l'accompagnement global ça offre aussi cette proximité, cette confiance qui a été établie tout au long du processus, tout au long de la grossesse. Et qui aide du coup à être plus à l'aise avec la personne qu'on connaît déjà. Et bien entendu que pour moi la maison, le lieu où se passe la naissance est assez important également, parce que donc ce qui a été abordé un petit peu dans ce passage, c'est la physiologie. Qu'est-ce que c'est que la physiologie de l'enfantement, c'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on aide le corps d'une femme à réaliser ce processus incroyable qui est de mettre au monde un bébé, un processus pour lequel on a tous les éléments, on va dire, on a le kit complet en nous, mais c'est quand même un processus assez complexe qui requiert donc cette intimité, une certaine confiance, se libérer de peur qu'on peut porter les unes ou les autres. Et du coup, voilà, ça va être favorisé par le fait d'être avec une personne de confiance et aussi dans un lieu qui nous est cher, dans lequel il y a nos odeurs, où on se sent parfaitement à l'aise.
Tu parlais de que ça favorisait le fait de faire à domicile et puis que d'instaurer une certaine confiance, d'intimité, tout ça. En quoi ça favorise ? Il y a des mécanismes ?
Alors ça va vraiment favoriser le processus en fait de libération des hormones. Donc bien sûr, je parle des gens qui ont fait le choix d'accoucher chez eux, hein, parce que c'est un choix. Il y a des personnes pour qui ça n'aurait aucun sens d'accoucher à la maison parce qu'ils ne se sentiraient pas du tout en sécurité émotionnelle ou autre. Mais pour les personnes pour qui ça a du sens, ça va vraiment participer à la libération de tout un cocktail hormonal parfaitement bien établi, hein, qui va permettre du coup
coup, là, donc, dans ces hormones, vous avez l'ocytocine naturelle, hein, qui est l'hormone de l'amour quand même, qui est une hormone que tout être humain connaît, a déjà connu normalement au cours de sa propre naissance et ensuite au cours de l'acte sexuel aussi. C'est la même hormone, c'est cette hormone qui donne les contractions utérines, donc qui permettent la venue de l'enfant. Et puis avec cette ocytocine va également des endorphines, donc des hormones. Alors je parle d'ocytocine naturelle, celle qu'on sécrète naturellement quand on se met en travail, hein, quand les femmes se mettent en travail, elles sécrètent cette hormone, cette ocytocine, cette hormone de l'amour, qui est une hormone d'ailleurs extrêmement timide, qu'on ne connaît pas bien, mais qui va se libérer dans certaines conditions particulières, notamment cette intimité, éventuellement la pénombre, la chaleur, la confiance. Tout ça, ça va permettre la libération d'ocytocine.
Est-ce qu'il ne pourrait justement défavoriser cette venue d'ocytocine? Ça peut être aussi le stress, donc.
Absolument.
La
peur, le froid, okay. L'inconnu. Également tout, c'est, là on a entendu Michel Audin dans ce petit passage, lui il parle beaucoup de toute stimulation du néocortex, c'est-à-dire de ce cerveau très très important que nous avons nous les humains, plus ce cerveau de la réflexion qui nous permet de faire des choses incroyables, plus ce cerveau va être au repos au moment de la mise au monde, plus notre cerveau animal va être en veille et le cerveau plus cortiqué va être au repos, plus la libération d'hormones va être efficace et l'accouchement va être fluide, facilité. Donc plus on parle à une femme qui accouche par exemple, ou plus on lui fait des gestes techniques, ou plus on la stresse, moins elle va libérer ses hormones facilement.
Déjà l'exemple qui est très souvent cité, c'est le nombre de femmes qui chez elles ont des contractions. Et ensuite le fait de prendre la voiture, d'arriver à l'hôpital, d'être mobilisée par des formalités administratives, répondre à des questions, les contractions se sont arrêtées. Ça, je pense que tout le monde a entendu des histoires comme ça, et c'est vrai que c'est une des illustrations de cette stimulation du néocortex qui va à l'encontre du processus physiologique.
Voilà, donc c'est vraiment un processus qui est assez compliqué et qui est variable pour chacune, puisque aucune femme n'accouche de la même manière. Donc en fait, un peu le travail de la sage-femme, ça va être d'essayer de favoriser au maximum la libération de ces hormones naturelles pour une femme qui souhaiterait accoucher le plus naturellement possible. Voilà.
Ok. Est-ce que toi, en tant que praticienne, praticienne sage-femme, est-ce que tu refuses? Ou est-ce que tu refuses des couples ou des mamans parce que justement elles sont dans un état défavoriserait justement toutes ces hormones d'agir ou ça t'est déjà arrivé ou est-ce que
disons que déjà il y a certains critères pour accoucher à la maison. On va accoucher à la maison dans certaines conditions de bonne santé, de grossesse normale sans complications, sinon on va pas partir sur un projet d'accouchement à la maison quand la grossesse est soit l'enfant naît prématurément ou qu'il y a des complications médicales au cours de la grossesse. Donc là ça va être des critères d'exclusion. Mais ensuite des fois moi je me suis trouvée dans des situations où je n'ai pas su comment accompagner la femme pour qu'elle arrive à libérer ses hormones. Par exemple, une femme qui serait trop dans son mental ou qui serait trop dans des inquiétudes, on peut avoir des difficultés en cours d'accouchement. Bon, en général, c'est de l'ordre de stagnation, c'est-à-dire le col ne se dilate pas, c'est très long, c'est très douloureux. Mais il peut y avoir en effet des moments où ce cocktail hormonal n'est pas à son top, même à domicile. Hein. Le domicile n'est pas forcément absolument une condition de réussite, on va dire, de ce cocktail hormonal qui est extrêmement complexe. Et d'ailleurs, on est très content dans ces cas-là de pouvoir aller à l'hôpital, de pouvoir avoir recours à une péridurale si c'est trop trop difficile, s'il y a des complications. Voilà.
En parlant du coup de cocktail hormonal, moi j'ai bu le cocktail des sages-femmes pour aider au déclenchement de mes ocytocines parce que j'avais très peu de contractions et que le terme était dépassé depuis plus de 5 jours. Plus de 4 jours. Mais on était à la limite du 5e. Et donc, je peux dire ce que j'ai bu.
La recette magique.
C'était de l'huile de ricin avec de la crème d'amande et un jus de fruits. C'était notre jus de pomme, du coup. Et donc, on boit ce verre en 2 heures.
donc tranquillement, et au bout de 2 heures, une fois que le verre est fini, les contractions commencent. Et ça marche. Alors pour moi, comme mes hormones étaient encore très très tranquilles, ça a marché, mais je disais, ah bah oui, là, je crois que j'ai une contraction et tout ça. Donc les sages-femmes m'ont dit que c'était pas encore très bien en travail. Et donc j'ai eu le choix, toujours on a le choix dans tout ce qui se passe à la maison, d'attendre que ça se passe tout seul, ou bien de boire un autre cocktail pour continuer à aider mes ocytocines à se déclencher. Le deuxième est passé plus difficilement, hein, c'était plus difficile à boire, mais après, par contre, quand ça a commencé, du coup, ça a commencé très très fort d'un coup. Voilà.
Et Hélène, donc, ton rôle en tant que sage-femme accompagnatrice, quel est ton rôle? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas quelque part que tu fasses office de psychologue, ou bien que tu fasses preuve de sensibilité par rapport justement aux mamans qui viennent te voir? Comment tu gères tout ça?
Alors, je voulais juste déjà rebondir sur ce que vient de dire Chloé. Alors, ne prenez surtout pas cette recette comme une recette que tout le monde peut prendre pour déclencher le travail.
J'ai pas donné les dosages.
Bon, voilà, t'as pas donné les dosages, très bien. Non, c'est vraiment assez exceptionnel qu'on utilise ce type de breuvage, qui est une recette assez ancienne, transmise de sage-femme à sage-femme, pour déclencher un accouchement qui ne se remettrait pas en route. Parce que l'idée, c'est quand même d'éviter tout type d'intervention. Celle-ci étant une intervention minime, je dirais, mais quand même une intervention sur le processus. Donc la psychologie, nous ne sommes pas psychologues, mais nous avons, je dirais, les sages-femmes, une connaissance que nous ont donné les femmes, d'ailleurs, puisque ce sont les femmes que nous avons accompagnées qui nous ont montré comment on accouchait, hein. On les remercie beaucoup, et nous-mêmes, si nous avons accouché, nous avons notre propre expérience.
Et puis c'est aussi la définition de la sage-femme, c'est une femme qui connaît les femmes.
Voilà. Du coup, c'est peut-être cette connaissance du processus, et surtout essayer d'appréhender un petit peu comment ces hormones peuvent être sécrétées, qui va peut-être aider une femme à se mettre en travail ou la soutenir au cours du travail. Idéalement, la sage-femme devrait être le plus discrète possible, très peu intervenir, puisque, comme je vous disais, c'est une question d'hormones timides qui sont sécrétées dans la pénombre et dans l'intimité absolue. Donc, on n'est pas censé faire beaucoup de choses, puisque c'est un processus tout à fait normal. Ce qu'on fait beaucoup, nous, les sages-femmes, aujourd'hui, c'est rassurer les femmes, parce que les femmes ont peut-être, en général, un manque de confiance dans ce processus, ou ont des fois quelques doutes sur leur capacité à mettre au monde leurs enfants. On a rarement des femmes qui sont absolument convaincues que le processus fonctionne parfaitement. Et donc, notre travail est essentiellement de la réassurance pour dire que c'est super ce qu'elles font, et ça progresse bien, et elles vont y arriver, quoi. C'est un peu l'essentiel de notre travail. Ensuite, bien sûr, il y a la préparation à la naissance, tout ce qui peut être un petit peu transmis sur ayez confiance, et expliquer comment la machine fonctionne, parce que c'est une machine extraordinaire. Voilà.
Moi, j'ai envie de dire aussi que, comme tu disais, que la sage-femme doit se faire discrète, mais en fait, le compagnon ou la personne de confiance qui accompagne la femme accouchante, elle a le rôle hyper important, quoi, que ce soit au cours de la grossesse ou au moment de l'accouchement. Et pour libérer les hormones de l'amour, il n'y a rien de tel qu'un conjoint qui soit là, qui soit rassurant, qui a les bons gestes, qui connaît normalement sa compagne sur le bout des doigts, et on se doit d'être là pour faire en sorte que l'accouchement se passe au mieux et libérer ses ocytocines. Donc le meilleur moyen et le plus beau cadeau qu'on puisse faire à sa compagne, c'est de se préparer au même titre qu'elle à la venue de cet enfant, et du coup de s'informer autant dans les livres, autant dans les témoignages, pour faire en sorte que ça se passe au mieux, et d'afficher une confiance certaine, même si au fond de nous, on n'est pas forcément toujours très confiant, mais au moins laisser paraître qu'on est hyper confiant, quoi. C'est important.
J'avais envie de revenir sur cette histoire de cocktail là. Alors moi, j'ai envie de témoigner. En fait, je peux vous dire que j'ai
très très peu de souvenirs de mon accouchement. Je pense que si ça se trouve, c'est des souvenirs que je me suis créés par le récit de ce que mon compagnon m'a rappelé comme « Ah oui, t'as fait ça !» Et j'ai vraiment eu la chance d'avoir été du coup dans ce cadre-là, Hélène, que tu parlais, la pénombre, la chaleur et le soutien de personnes qui me sont chères. Du coup, ce qui fait que le cocktail a tellement bien marché que je pense que je me souviens de pratiquement rien. Mm-hmm. Et du coup, là, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que pour moi, là, j'ai vraiment eu la connexion aussi avec à me sentir vraiment animal. Enfin, mm-hmm. moi, j'ai vraiment ce truc-là de... Voilà, de...
Je c'est vrai qu'on n'a pas parlé.
Tous, tous pareils, quoi, y compris les animaux. Et je crois que c'est là où, pour moi, ça a fait vraiment du sens et que j'ai vraiment eu une expérience assez initiatique, quoi, en termes de... Ouais, et je pense que j'aurais pas pu vivre ça dans une salle d'accouchement avec des néons. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai envie de retenir de cet accouchement-là.
Je pensais à ça tout à l'heure quand on parlait d'intimité, se rappeler que les femmes, on est des mammifères. Et donc, tous ceux qui ont eu une chatte, ils se rappellent quel coin la chatte choisit pour accoucher. En général, c'est pas au milieu de la cuisine, sous les spots, avec plein de monde qui passe autour. C'est en bas d'une armoire, ou voilà, dans un coin vraiment, vraiment très discret, vraiment intime. Donc moi il y a eu ça aussi qui m'a inspirée, c'était de voir voilà comment les animaux font pour accoucher et voilà ce qui fonctionne pour eux en me disant ça doit quand même pas trop mal marcher pour nous aussi.
C'est marrant parce que justement mon compagnon était chez toi Marguerite peut-être un mois avant que j'en accouche et il a vu justement l'accouchement de ta je sais plus comment il s'appelle ton chat et en fait ça il a réalisé « Ah ouais, mais c'est ça, c'est juste ça en fait. » Et c'est ça qu'il a, tu disais tout à l'heure, de la confiance que l'homme peut aussi aller chercher. Et en fait, il a réalisé « Ben ouais, en fait, ma femme, c'est un peu comme un chat. » Et du coup, ouais, je peux faire confiance à la nature. Pour moi, ça a été ça aussi. Enfin, vraiment, ok, je peux faire confiance à ma nature, à la nature, à la vie, quoi. Et je crois que c'est ouais et c'est en ça que je vois que en fait quand tu posais la question là tout à l'heure de pourquoi accoucher à la maison, je crois que bon c'est plus maintenant je réponds à cette question là je me dis aujourd'hui pourquoi pour moi c'est pour ce cheminement intérieur en fait pour arriver à avoir la confiance dans ce que je suis la vie donc j'ai confiance dans la vie voilà.
Beau témoignage. Cyril, ce que je vous propose, si ça vous va à tous, c'est que Cyril avait une petite musique à nous faire partager. Donc si Cyril, si tu veux la présenter, à toi.
Ouais, alors on avait amené ça parce que c'est totalement dans la thématique. C'est une petite chanson yogique qui s'appelle Potamata, qui célèbre donc la maternité, qui... En fait, c'est une bénédiction à la maman. Et des mamans aux mamans. Voilà.
Toujours de retour dans les studios de Radio Coteau et toujours pour ce très beau sujet qui est donc l'accouchement à domicile et donc voilà on est toujours avec également Hélène qui est avec nous qui est sage-femme libérale et qui a donc fait le choix d'accompagner les mamans à domicile. Toute la petite bande de joyeux lurons du Comminges, toutes les personnes de l'association aussi qui sont autour de la table. Beaucoup de mamans qui ont accouché à domicile, donc qui ont ce regard par rapport à cette expérience. Et donc, Nidia nous parlait de rites initiatiques aussi, donc des moments assez forts dans leur existence. Et donc voilà, on est avec vous pour en discuter. Pourquoi pas aborder maintenant quelque chose qui certainement est sur les lèvres de pas mal d'auditeurs, qui sont les risques, parce que c'est toujours les petites craintes que l'on a, ces peurs qui nous reviennent de manière récurrente, et les risques de l'accouchement à domicile. Il y a des risques, Hélène.
Alors, c'est un petit peu ce que disait Nidia, c'est la vie, quoi. On accueille la vie, mais avec la vie va aussi la mort, quand même. Donc, on peut pas complètement nier les risques. L'accouchement est un processus qui est très ancien et qui fonctionne très bien, mais il peut arriver aussi qu'il y ait quelque chose de malheureux. Ça peut arriver à la maison, ça peut arriver à l'hôpital aussi. Donc déjà, situer que le risque zéro n'existe pas. Maintenant, l'accouchement à la maison n'est pas plus risqué qu'un accouchement à l'hôpital lorsqu'il est pratiqué dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'a priori, tout s'est passé comme il faut, hein, avant, pendant la grossesse. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. L'accouchement se présente bien, donc en général le processus fonctionne bien. Et aujourd'hui en France, on a la chance de pouvoir aussi avoir des relations avec les hôpitaux. Les hôpitaux sont quand même proches. Moi, je demande toujours aux gens que je suis de s'inscrire dans une maternité au cas où. Donc, si besoin de médicalisation, si besoin d'aide, on peut se rendre dans un hôpital et avoir une assistante médicale. Donc, le processus est vraiment quand même tout à fait sécuritaire. On a même des études qui montrent que les résultats sont meilleurs pour un accouchement à la maison, en particulier pour un deuxième ou troisième enfant. Il y a moins de complications, il y a moins de césariennes, il y a moins de forceps, il y a moins d'épisiotomie. Il y a aussi des avantages en termes de sécurité à accoucher chez soi, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de risque, aucun risque dans ce processus, comme dans beaucoup de processus de la vie, quand même.
Après, souvent aussi, cette peur, elle repose sur une mémoire du passé, où les gens ils se rappellent qu'avant
Donc à l'époque où il y avait beaucoup plus de gens qui accouchaient chez eux, la mortalité infantile était beaucoup plus élevée. Donc ils se disent aujourd'hui c'est pareil, on a l'impression que accoucher à la maison ça serait revenir à ça. Mmh. Et donc prendre conscience que c'est pas ça en fait, que accoucher à domicile aujourd'hui, ce n'est pas comme lorsqu'on accouchait à la ferme il y a un siècle. Et déjà comme tu le disais Hélène, il y a tout le suivi de la grossesse qui fait que si on voit qu'il y a des risques ou des pathologies etc, dans ces cas-là on est orienté vers l'hôpital. En fait l'hôpital est toujours une option.
Tout à fait. Et aujourd'hui on a quand même des femmes qui ont moins d'enfants. On va dire qu'au début du 19e siècle les femmes avaient des fois 20 enfants, donc c'était plus à risque, elles étaient peut-être en moins bonne santé, il y avait de la famille, il y avait des guerres, il y avait plein de choses, et du coup la mortalité était importante. Mais c'est clair qu'aujourd'hui on parle pas de la même chose, puisqu'on parle de femmes qui ont on va dire 2-3 enfants, qui sont en bonne santé, et si elles ne le sont pas, on va pas forcément faire ce choix d'accoucher à la maison. Donc les résultats sont excellents.
Est-ce qu'on peut oser dire que cette démarche là d'accoucher à domicile est presque un progrès? Parce que enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. C'est comme ça que j'ai le sentiment vraiment qu'on est dans une écoute donc de la femme, dans une écoute de sa physiologie, de son fonctionnement donc. Et puis en même temps, on a toute l'ingénierie, on a toutes les structures qui permettent justement d'être en sécurité ou avant même de suivre tout le long le processus pour voir si tout se passe bien. Si donc pour moi c'était vraiment une démarche progressiste. C'était quelque chose que je trouvais optimal.
Et c'est vrai que la physiologie est protectrice de la naissance, de l'enfant, de la mère également. Donc si on arrive à accoucher avec ses propres forces et ses propres hormones, le processus est vraiment sécuritaire.
Surtout qu'avant, on aura vu toutes les pathologies ou toutes les choses qui pourraient faire que l'accouchement à domicile ne puisse pas se faire pour X raisons. Et tout à l'heure, tu nous parlais aussi que le stress pouvait aussi être quelque chose qui pourrait faire qu'on ne puisse pas accoucher à la maison ou de petites choses. Donc tout est encadré avec le facteur risque, évidemment, que tu signalais tout à l'heure, comme quoi la vie, c'est aussi un petit peu... Il y a aussi des risques.
Voilà. Et Hélène, ça fait combien d'années que tu exerces en accompagnant des accouchements à domicile?
Ça fait 10 ans.
D'accord, ça fait 10 ans. Et tu saurais nous dire un peu quel est le taux ou le pourcentage d'accouchements qui se finissent à l'hôpital?
Oui, moi j'ai toujours à peu près les mêmes statistiques d'année en année. C'est 10 à 12% de transfert. Donc un accouchement qui démarre à la maison va se terminer par un transfert à l'hôpital dans 10% des cas. J'accompagne avec mes collègues une centaine de naissances par an.
Et les suites de ce transfert sont
Oui, l'essentiel des transferts a lieu pour un premier enfant. En fait, c'est quand même, on transfère beaucoup plus souvent lors du premier enfant, et c'est souvent pour une demande de péridurale parce que l'accouchement est long et difficile. C'est la première raison de transfert. Ensuite, on a une autre question qui nous est souvent posée, c'est la question de l'hémorragie de la délivrance, donc la deuxième partie de la naissance, une fois que l'enfant est né, la délivrance du placenta qui peut entraîner des saignements abondants. Donc ça, c'est l'hémorragie de la délivrance. Et nous avons, on va dire, 1 à 2 transferts par an pour hémorragie. Donc c'est un transfert après l'accouchement. Donc ça reste assez stable sur ces statistiques-là. Okay. Donc ça veut dire que dans la région, il y a 90 bébés qu'on accompagne à la maison et 10 bébés pour lesquels on va partir à l'hôpital.
Donc est-ce qu'on pourrait dire que un des rôles de la sage-femme, en plus de ce que tu disais de cet accompagnement, de donner confiance, de donner de la sécurité à la femme, c'est aussi un petit peu ce rôle de vigilance, de pouvoir voir à quel moment est-ce que ça serait peut-être plus sage de prendre
le chemin. Oui, ça c'est vraiment notre travail, c'est d'aller repérer ces pathologies. Et il se trouve qu'on est, en France en tout cas, très bien formé sur la pathologie, extrêmement bien formé, mieux formé que sur la physiologie d'ailleurs. Donc les pathologies, on les dépiste très bien, on les connaît très bien, et notre travail, ça va être, si on sort un petit peu du flot, là, de la rivière de la physiologie, le sentir assez vite, organiser le transfert et puis demander de l'aide dans un hôpital. Et on remercie beaucoup les hôpitaux d'être là pour soutenir aussi le processus.
Et je pense qu'une question aussi qui se pose très souvent, c'est est-ce qu'on a le temps ? Tu sais, on a souvent l'image que beaucoup de gens se sentent plus en sécurité d'accoucher à l'hôpital parce qu'ils se disent s'il y a un problème, je suis déjà là-bas et donc tout de suite il pourrait y avoir une intervention.
Oui. Alors, moi je n'ai jamais eu de soucis qui auraient nécessité un transfert extrêmement rapide. Après, c'est sûr que le fait d'être des fois un peu loin, moi j'ai été dans des accouchements où on était, il fallait marcher un petit peu pour arriver jusqu'à la yourte ou jusqu'au lieu. Donc, en effet, dans le transport peut faire que ça complique un petit peu les choses et pourrait être facteur aussi de complications parce qu'on pourrait perdre un peu de temps si quelque chose d'urgent se passer. Mais après, quand un accouchement démarre bien et qu'il est naturel, c'est-à-dire que c'est les hormones de la femme qui donnent les contractions et qui font avancer le travail, il se passe pas grand-chose de bien dangereux, on va dire.
Mm-hmm. Et tu viens de parler d'accouchement dans des yourtes, mais rassure-moi, il y a quand même des gens qui font le choix d'accoucher à la maison qui n'habitent pas dans des yourtes, quand même.
Bien sûr, ouais. Il y a des maisons, il y a des caravanes.
C'est pas qu'un truc de hippie, quand même.
Non, mais il y a aussi des accouchements où c'est vrai, on va aller assez loin, on va marcher un peu, et quand on envisage un transfert dans ces lieux-là, on se dit, ça va pas être simple. Mais on le prend en considération, et les parents font ce choix également, tout en sachant que si un transfert urgent était nécessaire, ce serait peut-être un plus compliqué que si on était à la porte de l'hôpital, bien entendu.
Mm-hmm. Ok. On en parlait justement donc des risques de l'accouchement à domicile. Un autre sujet aussi qui est peut-être facteur, qui est anxiogène ou qui est facteur de peur ou de tracas, c'est la douleur. Parce que moi, je vais avoir du mal à en parler. Mais
justement, là, tu l'évoquais quand tu disais que la principale cause de transfert, hein, t'as bien dit ça, c'était pour des femmes qui voulaient la péridurale.
Et oui, donc du coup, la douleur, elle revient aussi souvent dans les questions. Donc là, c'est la suite de ce cocktail hormonal avec cette ocytocine. C'est la première hormone qui donne les contractions. Et ensuite, le corps est tellement bien fait qu'il nous fait sécréter des endorphines. Donc c'est vraiment de la morphine naturelle, en fait. Donc on a notre propre péridurale, on va dire, on peut l'avoir à domicile, mais c'est une péridurale naturelle, je dirais. Donc c'est les endorphines, ces hormones qui permettent vraiment de s'adapter aux sensations et qui entraîne cette sorte d'amnésie dont tu as parlé, Nidia. On se souvient plus bien de ce qui s'est passé. On rentre vraiment dans un monde très très particulier. Ce cocktail d'hormones nous met dans un état tout à fait original et du coup permet l'adaptation aux sensations, d'autant plus qu'on est en effet soutenu émotionnellement dans un environnement adéquat et qu'on se sent en sécurité émotionnelle, affective. Voilà, alors il y a donc il y a tout plein d'outils pour accompagner les sensations. Et puis il y a même des femmes qui décrivent absolument pas de la douleur, elles décrivent plutôt du plaisir, puisque comme je disais au début, l'ocytocine c'est quand même l'hormone de l'amour, l'hormone qu'on sécrète aussi quand on a un orgasme. Donc il y a des femmes qui ont énormément de plaisir à accoucher, hein, pas simplement de la douleur, et pas de douleur du tout.
Qui ont du plaisir.
Et qui ont du plaisir. Alors peut-être certaines personnes pourraient en parler à cette table, je ne sais pas. Plus personne.
Moi, dans mon cas, c'était aussi pas mal lié avec le fait d'accoucher dans l'eau. J'associe toujours aussi ce plaisir avec la sensation d'être dans l'eau chaude, et ce qui est aussi presque un peu une forme d'anesthésie, de détente. Et oui, moi, j'ai accouché 3 fois à la maison. 3 fois dans l'eau. Bon, la troisième fois, c'était tellement rapide que l'eau était froide, donc là, c'était moins plaisant. Mais bon, c'était tellement rapide que j'ai pas eu le temps non plus d'avoir vraiment froid. Mais oui, pour ma première, j'ai vraiment ce souvenir. Allez, je vais pas dire que pendant les contractions, c'était super agréable. Mais les contractions étaient pas si longues. Et entre les contractions, vraiment, souvenir de planer. D'avoir des petites fourmis, des petits frissons partout, comme quand on fait l'amour, quoi. Donc oui. Et c'est vrai qu'à aucun moment, je me suis dit, si je pouvais avoir une péridurale. Ouais, de toute façon, aussi, pour moi, un avantage d'être à la maison, c'est que la question se pose pas. J'ai l'impression que à l'hôpital, si on te la propose toutes les 10 minutes en te disant, t'es sûr, tu veux pas une péridurale, peut-être qu'aussi tu vis, ça conditionne à que tu vives les choses différemment. C'est sûr qu'à la maison, bon, c'est pas une possibilité. Donc la douleur, tu l'accueilles, tu la vis sans doute différemment. Je dis sans doute parce que je peux pas comparer, mais oui, dans cette question de la douleur et du plaisir, je trouve qu'elle est vraiment centrale quand on parle d'accouchement à domicile. Et à ce sujet-là, je voudrais juste dire quelque chose qui m'avait interpellée, que j'avais lu dans un livre que je recommande à toutes les mamans et futures mamans. C'est le livre d'Ina Gay, Ina May Gaskin. Merci les autres. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Le guide de l'accouchement naturel. Et il y a tout un chapitre là-dessus sur la douleur et le plaisir. Et elle, ce qu'elle rappelle, quelque chose qu'elle martèle d'ailleurs à plusieurs moments lors de son livre, c'est que l'accouchement, c'est un acte sexuel. Alors c'est comme tu disais, il y a une question d'hormones, elle parle aussi beaucoup des sphincters, voilà, de plein de choses. Et donc elle compare beaucoup voilà, le fait d'accoucher et le fait de faire l'amour. Et en disant... moi, ça m'a rappelé la question du viol, me dire en fait l'acte sexuel, c'est pareil, ça peut être source de beaucoup de souffrance, comme ça peut être un moment fantastique. Donc au final, l'accouchement, bah, c'est pas si différent. Ça peut être si justement c'est quelqu'un qu'on connaît pas, on n'a pas choisi, on n'est pas acteur du moment. Donc, ouais, on peut se sentir violé, ça peut être très douloureux, ou si on est voilà, en confiance, dans l'amour, dans la joie, dans un contexte intime, là, ça peut être le pied, quoi.
Du coup, ça rejoint... Enfin, pour moi, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très personnel et de... Ça rejoint le rite initiatique dont tu parlais. Enfin, c'est que tout l'accouchement, c'est un... En fait, on résout un petit peu des questions et des problèmes personnels, et sans l'avoir prévu au départ, et qui nous font, qui surviennent face à la douleur justement et à la fois au plaisir, même si sur le moment je pouvais pas dire que c'était du plaisir entre les contractions, mais c'est vrai, une sensation de bien-être en fait. Et du coup, la difficulté de mettre au monde, elle est dans la tête en fait. J'ai l'impression. Et enfin, pour ma part, donc j'ai qu'un enfant, mais je pense que pour le deuxième, s'il y a, le fait de savoir ce que c'est, j'arriverai beaucoup plus à me laisser aller et à être dans un état proche de l'animal. Où la conscience est ailleurs et les problèmes se résolvent d'eux-mêmes et par là ça se passerait beaucoup plus tranquillement. Moi, je pense que pour mon accouchement, j'ai eu un peu de mal parce qu'il y avait une part dans mon esprit qui continuait à réfléchir à mes problèmes intérieurs, disons, et que ça a été dur du coup de pousser et qu'ils sortent et je pense que sans mon conjoint j'aurais eu je sais pas si j'y serais arrivée, parce que vraiment à partir du moment où on a réussi à établir une communion vraiment non verbale entre nous, ça a été ça s'est produit. Et pour reparler de la péridurale, moi j'imaginais que, parce que les sages-femmes m'ont dit au bout de 12 heures de travail, bon Chloé, on vous laisse encore, est-ce que vous voulez rester un petit peu tout seul, et j'ai dit oui, et bon ben on est à côté, mais dans une heure on va réexaminer, et puis si c'est toujours pas passé, ben sous-entendu, il va falloir aller à l'hôpital. Et là, moi, j'ai pensé, oh là là, prendre la voiture, avoir une péridurale, peut-être une césarienne, des forceps et tout ça. Et là, on s'est mis... voilà, là, moi, ça a fait l'effet inverse, quoi. Oh là là, vite, je peux y arriver. Et effectivement, on peut y arriver.
Moi, j'aimerais revenir sur la notion de plaisir en relatant mon expérience où... dans laquelle, au moment de l'expulsion, bon, qui a duré, je pense, quand même une bonne heure, donc c'était long pour moi, vraiment long, mais en fait, physiquement, je dirais pas que j'étais baignée, comme vous avez dit toutes les deux, dans un bain genre de bien-être, parce que j'étais
très épuisée. Donc moi j'ai dormi entre deux contractions à un moment. Mais en fait c'est au moment de l'expulsion, j'ai senti du coup c'est, donc quand le bébé passait, ça touchait la même zone que lors d'un acte sexuel. Et là, je fais « Ah ouais !» Sauf que c'est beaucoup plus intense. Et je qualifierais l'accouchement enfin, c'est pas tant de la douloureux, mais c'est intense. Donc, il y a vraiment cette notion d'intensité. Donc je pouvais pas avoir un orgasme. C'était pas possible, c'était trop intense. C'est juste, c'est pas...
c'est une session limite.
Mais il y avait vraiment... ouais. J'aime bien cette notion-là, en fait. Donc, soit on peut le prendre comme quelque chose d'intense, soit de douloureux, qu'il faut absolument... qu'il faut arrêter, alors que... Ben non, pas forcément.
Oui, je trouve que c'est ça le plus beau cadeau que nous permet l'accouchement à domicile, c'est qu'en fait, d'habitude, quand on a la douleur, enfin... peut-être généralement, on peut s'en remettre à un médecin, un médicament, quelque chose... qui va nous soulager et qui vient de l'extérieur. Et qu'en fait, dans la pratique de l'accouchement à domicile, on s'en remet toujours à nous-mêmes. Et ça, c'est en plus particulièrement le plus beau cadeau qu'Hélène nous ait fait. C'est qu'elle nous a, juste par sa présence rassurante, redonné cette force, et je pense que ça concerne beaucoup de femmes, cette confiance en nous, que c'est à nous que ça appartient. C'est pas parce que Hélène est là que ça va bien se passer et que voilà, elle est là et c'est rassurant et on sait que si ça se passe mal, elle pourra intervenir. Mais ce qui est magique, c'est que elle nous donne cette foi en nous que c'est, il y a personne d'autre que nous qui allons pouvoir résoudre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et du coup, c'est ça qui a, en tout cas pour moi, qui m'a amené à aller plonger dans ce que disait Nidia aussi tout à l'heure, l'animalité, voilà, la bête qui hurle, qui va aller chercher loin,
qui rugit,
qui rugit, aller trouver.
Je confirme, ouais. Je l'ai vu,
entendu.
Dinosaure.
Qui va aller chercher loin, mais du coup, c'est dans mes profondeurs à moi. Et là, ça rejoint aussi le truc initiatique dont tu parlais, Chloé, c'est que après ça, il y a quelque chose de nouveau en nous qui vient nous dire. Ben, on est capable de faire ça. Et c'est vraiment une force. Et puis c'est peut-être le fait de devenir mère de toute manière aussi qui nous amène cette nouvelle, comme une nouvelle ressource. Comme une nouvelle ressource incroyable. Voilà. Et ça, c'est vraiment parce qu'aussi, on n'a pas la facilité ni de s'en remettre à quelque chose qui soulagerait nos douleurs, ni de s'en remettre à un personnel médical qui, peut-être, nous voyant dans la détresse, irait faire moult interventions pour nous aider. Et non, là, il y a juste... une personne rassurante et le reste c'est en nous et ça voilà. C'est, du coup la douleur effectivement elle se vit différemment parce qu'elle n'est pas subie, on est dans une part active dedans. Alors on en fait ce qu'on en peut, voilà, on en crie, on en chante, mais au moins c'est nous qui faisons quelque chose avec ça.
Oui, ça c'était une phrase qu'il y a eu tout à l'heure lors de la présentation là, du documentaire qui parlait d'être véritablement acteur, actrice de son accouchement.
Ouais.
Et ça m'a beaucoup parlé parce que moi je me rappelle aussi de cette fierté, je sais pas si c'est un peu ça que tu voulais dire, après avoir mis au monde cette espèce de fierté énorme de j'ai fait ça, je l'ai fait moi quoi.
Je crois que le premier truc que j'ai dit c'est j'ai réussi.
I've got
c'est bête.
Et je voudrais juste dire que je pense que ça participe aussi au lien qu'on crée avec le bébé. Parce que là, on a parlé beaucoup de la femme, de ce qu'elle vivait, éventuellement du papa, de son rôle. Mais le bébé, lui, traverse aussi quelque chose, certainement. C'est sa naissance et c'est quand même là que c'est particulièrement important. Et que du coup, l'intensité qui est vécue, notamment au moment de l'enfantement, de la dernière étape de l'accouchement, va contraster ensuite avec le calme complet qu'il y a une fois que le bébé est là et permet de vraiment l'accueillir. C'est un peu, moi des fois je fais le parallèle avec une bonne randonnée en montagne quoi. C'est dur des fois, on a envie de s'arrêter parce que c'est vraiment très très difficile, et quand on est au sommet, wow, la vue qu'on a là, c'est juste pas possible. Et là l'ocytocine est à son maximum, vraiment vraiment quoi, complètement.
Et je voudrais juste aussi dire quelque chose pour rassurer les gens qui entendent cette émission sur l'accouchement à la maison. Ce n'est pas propre, ce dont on parle là, c'est pas parce qu'on accouche à la maison qu'on va avoir un orgasme éventuellement ou vivre ça, parce que on peut le vivre n'importe où. Je parlais juste de l'environnement qui des fois est un peu plus propice peut-être à la maison que dans une chambre d'hôpital. Mais il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui pour humaniser un peu plus la naissance, pour proposer des pôles physiologiques, des baignoires, des piscines dans les salles d'accouchement. Les sages-femmes travaillent aussi à l'hôpital pour améliorer les conditions de la naissance, certains médecins également. C'est une prise de conscience peut-être de quel est l'environnement qui aiderait, et c'est pas un peu partout que ça se passe, pour ceux qui choisissent d'accoucher à la maison, ceux qui choisissent d'accoucher à l'hôpital, dans les maisons de naissance, dans les plateaux techniques, toutes ces options qui sont aujourd'hui ouvertes. Parler physiologie, oser aller là-dedans, oser avoir confiance, peu importe le lieu où on accouche.
Bien. Bon, c'est sur ces belles paroles, je vous propose une petite chanson, une chanson de Gérard Bourgeois et de Max Rivière, chantée par Juliette Gréco, et le titre c'est « Un petit poisson, un petit oiseau ».
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame Hortendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame Hortendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage, et l'on voudrait bien changer au cours du voyage. C'est en nageoire, le ciel en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame Hortendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame Hortendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage, qu'apporterait du ciel, n'y a plus qu'un message. Et pour échanger d'un coup au cours du voyage des plumes en écaille, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame Hortendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame Hortendre, mais comment s'y prendre? Mais comment s'y prendre? Ah.
De retour dans l'émission qui va sauver la planète, parce que Hélène, tu n'es pas au courant, mais le slogan de l'émission, c'est « L'émission qui va sauver la planète ». Eh oui.
Rien que ça.
Voilà, rien que ça. Alors, nous, on parlait donc de l'accouchement à domicile et de toutes ces... tout ce qu'on peut y vivre, toutes les choses qui sont se retrouver, se découvrir et tout ça. Et aussi aborder, j'aurais souhaité aborder aussi un sujet, c'est le sujet, donc, enfin, la problématique qu'ont les sages-femmes justement à exercer leur métier. Alors, les sages-femmes dans le milieu hospitalier ont peut-être pas ce genre de problème-là, mais en tout cas, toutes les sages-femmes qui souhaitent justement accompagner de manière le plus physiologique possible, et donc très très souvent, très régulièrement à domicile, en tout cas des sages-femmes libérales, ont pas mal de difficultés actuellement, car il y a pas mal de difficultés à pouvoir pratiquer l'accouchement à domicile. Il y a une association qui s'est montée, parce que justement, qui était liée, il y avait une grosse problématique, et grosse problématique qui a émergé en fait à l'été 2013, où justement la profession a été un petit peu mise à mal. Il y a eu le Conseil de l'Ordre des sages-femmes, donc sur injonction du ministère de la Santé, qui a rappelé donc aux sages-femmes que la pratique de l'accouchement à domicile suppose d'avoir contracté une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant cette spécialité. Et surtout, il y a des sanctions à tout ça, c'est que il y a une amende qui peut être infligée donc de 45 000 euros. Et là où il y a une grosse problématique, c'est qu'une radiation. Radiation et donc interdiction d'exercer. Et ça, c'est une chape de plomb par rapport à ces personnes donc, qui sont engagés justement dans ce côté physiologique.
L'obligation d'assurance en soi, c'est pas vraiment ça le problème. Elle s'élève à combien l'assurance, Hélène, qui est proposée par
22 000 euros par an et par sage-femme pour accompagner des accouchements à la maison.
Mais de toute façon, vous gagnez des 1000 et des 100, donc 22 000 euros, ça peut pas être grand-chose pour vous.
C'est-à-dire qu'on est assez mal payé quand même. Donc la Sécurité sociale rembourse l'accouchement à la maison à hauteur de 350 euros par accouchement. Donc c'est voilà ce qui représente des fois 24 heures ou plus de travail. Donc c'est quand même, le taux horaire n'est pas excellent. Donc on n'a pas un bon salaire. Hein, et bon, on travaille de nuit, on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il y a une forme de pénibilité de notre profession. Et du coup, ce défaut d'assurance, donc quand on demande aux assureurs en France d'assurer une sage-femme pour l'accouchement à domicile, on nous demande 22 000 euros. Alors que dans des pays comme la Hollande, où c'est beaucoup plus courant, l'assurance pour l'accouchement à domicile est de 800 euros par an par sage-femme. Nous, c'est pas du tout le même tarif. Donc du coup, on n'a pas d'assurance. Et ce défaut d'assurance nous met dans une forme d'illégalité, puisque c'est une obligation professionnelle d'avoir une assurance. Et le fait de ne pas avoir d'assurance nous fait courir le risque d'une amende de 45 000 euros ou d'une radiation, c'est-à-dire qu'on nous enlève notre diplôme et on nous empêche d'exercer.
Rien que ça.
Voilà. Donc du coup, les rares sages-femmes qui font ça, et j'en fais partie, n'ont pas d'assurance, donc sont quand même dans une forme d'illégalité. On ne peut pas non plus garantir aux parents que s'il y avait un problème, on pourrait faire intervenir un fonds financier pour soutenir un enfant handicapé ou autre problème. Donc c'est quand même quelque chose de compliqué aujourd'hui de continuer à accompagner naissance à domicile. Et en tout cas, il n'y a pas réellement d'envie politique ou d'envie du ministère de la Santé ou même de l'ordre des sages-femmes pour l'instant de soutenir les sages-femmes dans le cœur de leur métier, hein, qui est quand même la naissance. Voilà. Donc pour essayer de trouver des solutions, il y a pas mal de parents qui se sont mobilisés et je pense que de toute façon les solutions viendront de l'engagement des parents également, parce que nous sommes trop peu nombreuses les sages-femmes et nous avons trop peu de temps accordé au militantisme, bien que nous le soyons quand même, mais on ne peut pas aller faire des réunions au ministère de la Santé et on ne sera pas entendu pour l'instant parce que nous sommes trop peu nombreuses, donc c'est vraiment les parents qui vont pouvoir porter ce dossier, on va dire, et peut-être nous aider à trouver cette solution assurantielle qui pourrait faire qu'on rentre un peu dans une forme de légalité. Et puis aussi faire parler de cette possibilité, puisque les femmes, les couples ne sont pas au courant en général que l'accouchement à domicile, c'est une possibilité. Donc c'est aussi ce bouche à oreille, on en parle, on en discute, on discute de la douleur, on discute de tous ces thèmes qu'on a abordés ce soir, pour que quelque part les gens se sentent un peu plus en confiance au moment d'aborder la naissance de leur enfant. Donc l'association de défense pour l'accouchement à domicile a été créée à Toulouse. Quand est-ce qu'on a créé la DAD ? Parce qu'au départ, c'était une...
Je crois que c'est 2016.
Si 2016, voilà. Parce que c'était au niveau national, le collectif de défense de l'accouchement à domicile. Donc, c'est un mouvement national. Il y a un site, d'ailleurs, du CDAAD, sur lequel vous trouverez plein d'informations concernant l'accouchement à domicile. Et au niveau de la région, c'est une association qui se trouve à Toulouse, que vous pouvez contacter sur l'adresse adad.toulouse@gmail.com pour toute information. Et c'est un groupe de parents, parents et sages-femmes, qui organise un certain nombre de réunions, d'informations, diffusion de films, petites manifestations, voilà, actions locales pour essayer pour soutenir les sages-femmes qui pratiquent. Et moi, je suis vraiment très, très heureuse qu'il y ait ce collectif, parce que c'est un grand soutien. On se sent des fois un peu seul, face à un monde un peu agressif, je dirais, autour de cet accouchement à domicile, souvent des jugements de dangerosité de ce qu'on fait qui ne sont pas fondés, comme on en a parlé. Donc le fait d'être soutenu par les parents, c'est extrêmement important. C'est important aussi pour les sages-femmes qui sont des fois en difficulté avec l'ordre, qui ont des procès, parce que ça arrive aussi qu'il y ait des procès, qu'il y ait des radiations. Donc ce soutien aux sages-femmes, c'est primordial pour nous professionnels.
Comment vois-tu évoluer ta profession, en tout cas ta démarche, est-ce qu'elle évolue dans le bon sens?
Moi, je suis assez enthousiaste, je suis un peu inquiète par contre de la
de la tournure que prennent les choses, enfin plutôt par rapport à mes collègues qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont souvent en souffrance, hein, parce que les sages-femmes dans les hôpitaux travaillent dans de très mauvaises conditions, on ne respecte pas la physiologie, on ne met pas du tout ça en avant, et pourtant c'est le cœur de notre métier, donc des fois elles travaillent, elles ont beaucoup trop de femmes à suivre. Il y avait dans ce petit extrait là qui est passé tout à l'heure, la notion que dans certains pays, il y a une femme, une sage-femme, c'est posé comme tel. En Angleterre, c'est comme ça. En Hollande, c'est comme ça. En France, c'est pas du tout ça. Il y a des hôpitaux où les sages-femmes gèrent 4-5 naissances en même temps, ce qui est des conditions déplorables et qui ne permettent pas du tout qu'on pratique ce pourquoi on est formé normalement et ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire la physiologie, le soutien pour que le processus soit le plus naturel possible. Donc on va dire qu'en général les conditions de travail des sages-femmes ne sont pas extraordinaires, mais il me semble qu'il y a quand même une volonté pour beaucoup de sages-femmes de reprendre un petit peu le cœur de métier et de revenir et de parler physiologie. Mais il me semble qu'on a absolument besoin d'être en partenariat avec les parents pour que ça se passe, hein, pour que les choses avancent. C'est vraiment la nécessité de se fédérer aux parents. C'est très très important. D'où cet appel un petit peu à mobilisation des parents, parce que bien sûr c'est un sujet, on accouche et puis une fois qu'on a accouché, bon ben on passe à autre chose. Il y a l'école, il y a d'autres. Mais pourtant c'est un sujet extrêmement important de comment on accueille nos enfants. Et mon engagement, c'est aussi pour que l'humanité garde des valeurs et un certain le pouvoir, notamment de l'amour, des hormones de l'amour, ce dont parlait Michel Audin. Quelle va être la société de demain, surtout si on accueille les enfants avec violence, avec beaucoup de médicalisation, beaucoup de produits chimiques dont on ne connaît pas les effets à long terme sur l'être humain. C'est un petit peu comme l'agriculture, je dirais, hein, on est sur les mêmes questions. Que font toutes ces hormones qu'on met dans le corps des femmes au moment de la naissance et dans le corps des bébés, dont on ne sait absolument pas quels vont être les effets à long terme de toute cette médicalisation. Donc reprenons un petit peu et les parents et les sages-femmes de confiance et de force pour pouvoir vivre les choses pleinement.
Pour faire avancer un petit peu le mouvement justement par rapport à la DAD, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut témoigner ou est-ce qu'on
peut... Alors on peut tout à fait déjà contacter la DAD, également adhérer à cette association. L'adhésion est de 5 euros, donc c'est pas très cher. Plus il y aura de monde qui adhère, c'est toujours pareil, plus cette association sera représentative aussi de quelque chose. Participer, on se réunit à peu près tous les mois pour organiser des conférences, parler de ce sujet-là, diffuser des films. Il y a eu la diffusion du film Entre leurs mains, le film Loba qui parle de ces sujets-là, le film Maillotticienne, plus local on va dire. Tous ces films ont été diffusés, ça participe à lancer un peu un débat, discutons un peu de tout ça, informons-nous, restons informés. Le livre dont a parlé Marguerite, Ina Megaskin, donc le guide de l'accouchement naturel, il y a beaucoup de livres sur le sujet. Cherchez l'information, renseignez-vous.
Dire, il y a un peu plus d'un mois, avec la DAD, on tenait un stand sur l'accouchement à domicile à Alternatiba, à Toulouse. Et c'est vrai que c'était vraiment important aussi à cette occasion de placer la défense de l'accouchement à domicile vraiment à l'intérieur de toutes les luttes, de tout le mouvement, les mouvements qu'il y a pour changer le système, pour avoir un monde meilleur, pour sauver la planète, comme vivre en commun. Que ça en fait partie, en fait, que ça commence là. C'est là qu'on arrive, c'est notre point de départ. Tu disais ça tout à l'heure, non, Cyril? C'est là, on arrive au monde, c'est le départ de tout le reste, quoi. Et ce sentiment dont on parlait tout à l'heure, ce sentiment de fierté qu'on peut avoir après un accouchement, c'est aussi quelque chose qui nous porte dans le reste de notre vie de parents, de prendre conscience qu'on est acteur et qu'on est capable de le faire. Donc il y a plein de façons d'intervenir, mais déjà juste en parler et se rappeler que c'est une possibilité, c'est déjà énorme.
Et tu parlais tout à l'heure de groupes de parole, et c'est vrai que la parole libère aussi, et c'est vrai que le fait d'en parler, ça permet de sensibiliser les gens, que les gens ont certainement Généralement, quand on a peur, c'est quand on ne connaît pas ou quand on ne connaît pas bien la chose. Et c'est vrai que toi, tu fais tu animes ou pas, ou tu proposes des groupes de parole ou pas du tout?
Oui, moi, au sein du cabinet, on propose ce que j'appelle un café des parents, qui est un moment plutôt où les parents vont se retrouver avant ou après l'accouchement. Il y a aussi à Toulouse un groupe qui est un groupe de parole autour de la naissance qui a lieu à Ramonville le premier vendredi du mois. Donc là, vous pouvez contacter la DAD aussi pour avoir les renseignements sur ce groupe de parole autour de la naissance, puisque il y a quand même en effet beaucoup besoin de parler, de donner l'information, et aussi il y a malheureusement beaucoup besoin de parler parce que certaines femmes vivent quand même des violences ou vivent des fois l'accouchement comme quelque chose de violent et ont besoin ensuite de libérer la parole. Donc c'est dans ces groupes aussi qu'on peut déposer des choses si des choses difficiles ont été vécues.
Il y a aussi un cercle de mamans à Saint-Gaudens qui a fait une petite asso autour de ça.
Dans le Comminges donc?
Oui, tout près d'ici.
Ça marche.
Mais vous trouverez l'information sur le site de Se Vivre en Commun. On va la chercher en tout cas.
Ouais. Est-ce qu'on s'autorise un petit tour de table, et je ne sais pas si on a quelque chose à redire, quelque chose à vouloir exprimer ou même sur le moment présent, le fait d'avoir partagé ça ensemble, voilà, si on veut se faire un petit tour de table vite fait, si ça vous tente, hein, les gens qui veulent en parler.
Conclusion au sujet.
Vive l'accouchement à la maison, pourvu que le maximum de parents puissent y avoir accès, puissent le faire. Il y en a qui osent le faire sans sage-femme aussi, ça peut très bien se passer, j'en connais. Voilà, ça existe, sachons-le, c'est possible, et c'est des moments absolument magiques.
Ouais, tu parlais de moments magiques, j'avais pas du tout conscience lorsque j'ai eu ma petite fille que ça pouvait être aussi fort et aussi, aussi serein, dans une pleine intimité, dans un petit cocon, et ça a été également magique. Et voilà, c'était un excellent moment, et c'est aussi pour ça qu'on proposait le sujet, c'est que Lorraine et moi, nous a donné beaucoup de force, nous a donné de la sécurité en nous, évidemment. Et c'est comme tu dis, si on a accès à une sage-femme qui puisse pratiquer à domicile, voilà, c'est tout bonnement génial.
Ça me remplit de frissons, là, rien que d'y penser.
D'ailleurs, on a souligné plusieurs fois qu'il n'y avait jamais eu autant de monde dans le studio de Radio Coteau, ou en tout cas depuis longtemps, pour une émission, et qu'on est très nombreux autour de cette table. Et je pense que c'est aussi pour ça, comme tu dis, c'est quelque chose de si intense et de si magique qu'on a envie de témoigner autour de ça. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, quand tu présentais Hélène, on faisait les groupies et on poussait des petits cris, etc. C'est que, voilà, c'est que... qu'on a partagé un moment tellement intime, tellement fort, que ça crée aussi un lien très particulier, quoi.
On l'en remercierait presque d'avoir été aussi peu présente.
C'est ça.
Si tu me permets, Christophe, je voudrais juste dire que pour la naissance d'Aimé, moi j'étais particulièrement bien accompagnée par deux personnes qui sont tes deux chiens. Qui vraiment ont amené beaucoup de sérénité, et on sentait qu'ils étaient très tranquilles. Donc quand on a parlé du côté animal de la naissance, les animaux sont extraordinaires. Et tes deux chiens ont été extraordinaires et se sont réveillés juste au moment où le bébé est né. C'était magique.
Nounouille et Sweet. Je vais les citer.
Moi, je veux aussi vous remercier de participer à cette émission et de pouvoir vous écouter. Et je trouve que c'est pas forcément facile de parler de ce sujet dans la vie de tous les jours avec tout le monde, parce que on est regardé un peu comme des irresponsables quand même. Et donc voilà, des fois moi je me sens un peu mal à l'aise ou un peu en colère, en fait, contre moi, de ne pas pouvoir exprimer tout ce que Hélène explique si facilement, et voilà.
Mais c'est quand même, moi je ressens très fortement qu'il y a un effet boule de neige assez hallucinant. Enfin, ça dépend des endroits où on va, mais là nous on est allé pas mal rodé un petit coin d'Ariège sur un lieu de non-scolarisation des enfants, d'accueil d'enfants non-sco. Et tous les parents ont accouché chez eux, il n'y a rien de plus normal. Hallucinant. Enfin, ça prend vraiment fort, je pense que c'est exponentiel, comme plein de choses sur un peu cet avènement de la conscience humaine qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Entre autres autour de la naissance et... Ouais. Merci à la vie.
Oui, Hélène, moi j'avais vraiment envie de te remercier pour ce que tu fais, ton engagement à corps et âme. Je crois que voilà, je suis super contente qu'il y ait des gens comme toi qui existent.
Merci, merci Hélène.
Merci.
Merci.
Ben merci. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Cyril, qui est vraiment la question de la conscience. Conscience que quand on met au monde ses enfants, c'est quelque chose de sacré, vraiment. Et c'est un moment hyper important pour la vie d'une femme, pour la vie d'un homme et pour la vie d'un bébé et pour la création de la famille. Donc ce moment-là, qu'il soit vraiment respecté, c'est primordial.
Et la création de l'humanité de demain aussi.
Exactement, tout à fait.
D'ailleurs, moi, je voudrais faire part de mon expérience d'accouchement, mais du coup, pas à la maison, parce qu'à l'époque, on n'avait pas un habitat adéquat à l'accouchement à la maison. On n'avait pas l'eau courante, enfin, pas l'électricité, donc c'était un peu compliqué pour le confort, en plein hiver, quoi. Donc, du coup, on a accouché dans une petite maternité à Oloron-Sainte-Marie, donc dans un autre département. Et du coup, là-bas, c'est... pour le coup, une sage-femme, un accouchement, puisqu'il y a un accouchement tous les 24 heures en moyenne. Donc nous, on a vécu ça comme quelque chose de très intense. Donc on parlait d'intensité tout à l'heure pour la femme, mais moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très intense, puisque ça a été une connexion entre 3 ou 4 personnes, parce qu'il y a eu moi, il y a eu Noémie, il y a eu Cinéade, mais il y a aussi eu la sage-femme. Et à ce moment-là, dans la pièce, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de choses. Nous, on a fait de l'autonomie pour rentrer en communication avec le bébé avant qu'il arrive. Et c'est vrai que toute cette démarche a permis aussi d'acquérir une certaine confiance. Et du coup, peu importe le lieu, tant qu'on est en confiance, c'est beau et ce sera magique, quoi. Et du coup, j'ai envie de, pour éventuellement un deuxième enfant, revivre ça, mais du coup, à la maison, pour une fois. Et au moins vivre ça une fois dans ma vie, voilà.
D'autres interventions? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'est le moment.
Allez, je veux bien dire merci Hélène d'avoir rappelé comment soutenir et aider le mouvement. Parce que en effet, la création de la DAD apparemment était un an après mon accouchement, mais voilà, c'est important même bien après l'accouchement de continuer à soutenir, et voilà, ça me donne vraiment envie de passer à l'action.
Eh ben, merci à tous. Cette 98e émission touche à sa fin ce mardi 7 septembre dans le direct des studios de Radio Coteau. Je remercie à tout le monde d'avoir participé à ce sujet. Chloé, Aurélie, Marguerite, Christophe, Ben, Bastien, Cyril, Nidia, Christian, Zoïd et Marie qui étaient aussi présents en studio, et également des spectateurs qui étaient là, Annie, Sophie, Laurie, Sébastien, et également des spectateurs de tout jeune âge qui étaient en plein dans le sujet, Aloé et Aimé qui étaient avec nous. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion sur les ondes de Radio Coteau le troisième mardi du mois, ça nous fait le 21 novembre à partir de 20h, et également en rediffusion sur Radio La Locale, la radio de Saint-Girons, du Couserans et du Nord du Comminges. Ce sera tous les lundis du mois à partir de 23h et les samedis à partir de 16h, également sur les ondes sur 97.3 ou sur internet. Cette émission sera aussi disponible en podcast sur le site de l'émission, ou en téléchargement ou en streaming comme bon vous semble. Je rappelle un peu les sujets de la première partie d'émission. Donc toute la première partie, on a eu un petit reportage sur la poésie guatémaltèque présenté par Anna, les abeilles récolteuses de propolis présenté par Marie, une expérimentation zoïdesque et une petite chronique existentielle, et puis Chloé qui nous a parlé de cette école de musique en Inde et de son futur voyage. Je rappelle aussi le numéro du répondeur de l'émission. Si comme René, Marie, Elisabeth ou Simon, vous voulez nous laisser un message sur le répondeur qui sera diffusé en début d'émission, ça peut être ce que vous voulez, une réaction à cette émission, un coup de gueule sur l'actualité comme un Joaz ou l'annonce d'un événement que vous organisez. Donc le numéro, prenez vos stylos, c'est le 09 72 38 40 01. Benjamin.
Moi, je voudrais rajouter deux petites choses. Du coup, j'espère déjà que l'émission a plu aux auditeurs, mais aussi dans l'optique de faire une série d'émissions, on avait pensé commencer par l'accouchement à la maison parce que c'est le début de la vie, c'est le début d'un tout. Et du coup, pour 2018 et les prochaines émissions, on avait envisagé de faire toute une série d'émissions sur la grossesse, l'éducation à la maison, les différentes formes d'éducation possibles et des alternatives qui existent pour le bien-être des familles, la confiance, etc., etc. Donc a priori durant 2018 il y aura des choses comme ça qui vont venir, et du coup si jamais il y a des gens qui seront intéressés par ces différents thèmes, qui nous le fassent savoir.
Et d'ailleurs sur cette thématique, il y a un projet d'école démocratique sur le canton du côté d'Aspet. Ils sont en train de faire un appel pour voir les gens qui seraient intéressés par cette thématique là à voir ce que ça
par
veut
exemple.
Dire
Et du coup, j'en profite aussi, la deuxième chose, c'est que arrive fin 2017, et du coup, pour 2018, Vivre en commun, je vais relancer la campagne d'adhésion à l'association. Donc voilà, on a toujours besoin de soutien, et du coup, vous pouvez soit trouver les bulletins d'adhésion, soit au siège de l'association, sur les différents stands, ou même sur le site internet, vivreencommun.org. Donc n'hésitez pas à nous soutenir.
Voilà, l'association Vivre en commun, c'est à la fois cette émission de radio, mais c'est aussi une bibliothèque associative qui se trouve sur le canton d'Aurignac, à Saint-André, avec une bibliothèque et une grainothèque associative, avec des graines potagères, de légumes et de céréales et ornementales, et des livres sur un petit peu tout, pas mal sur le jardinage, et puis sur toutes les thématiques qu'on aborde à l'émission. Cette association, elle fait aussi des animations dans l'école de l'Île en Dedon, avec toi Christophe notamment, et voilà, et on est plus ou moins régulièrement sur des stands ou des foires pour présenter ce qu'on fait. Voilà, et vous pourrez nous retrouver sur, et on anime le site vivreencommun.org, où vous pourrez retrouver toutes les émissions, les 98 émissions, ou presque, qui sont sur vivreencommun.org, et vous pourrez retrouver aussi pas mal d'événements avec notre partenaire, commun.demosphère.eu. Voilà pour cette émission. Merci à tous d'avoir participé. On se retrouve le mois prochain avec un sujet. On aura James Forrest qui sera en studio, et ce sera sur les plantes de l'hiver. Le hou, le gui, le fragon, le lierre, ces plantes méconnues mais qui ont des vertus médicinales et souvent originales. Voilà. Eh ben, ciao, à bientôt, bye.
Salut, bonne soirée.
Ciao.
Pleure pas maman, pleure pas maman, pleure pas maman. Même si je suis une épave, un délinquant. Si à cause de moi tu fais fuir tous les gens. Je suis un ton genre, ton petit enfant. Pas qui voulait tant que je sois quelqu'un de bien. Instituteur, curé, laitier ou pharmacien. T'aurais jamais pensé qu'un jour dans ta cuisine. Tu m'aiderais à peser mes doses d'héroïne. Pleure pas maman. Pleure pas maman. Non. Car si je suis un vilain garnement, je suis toujours ton genre, ton petit enfant. Pleure pas maman, maintenant je peux te l'avouer. C'est à cause de moi que papa est mort de chagrin. Parce qu'il était chef de gare, on l'a accusé. Mais c'est moi qui avais fait dérailler le train. Pleure pas maman.
venu présenter mes petites sœurs à mon copain Alain qui avait la bouche en cœur. Elles étaient pourtant bien mignonnes, mes deux frangines. Elles ont fini à Amsterdam dans une vitrine. Faut arrêter de pleurer. Un petit effort, ça y est, te voilà consolé. Je savais bien que tu l'aimais toujours ton Georges. Allons, aide-moi à dégrafer ton soutien-gorge.
L'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local, interview, agenda, musique.
Vous saurez tout, tout sur le Comminges.
Ne manquez pas donc le rendez-vous de l'association Vivre en Comminges tous les premiers mardis du mois à partir de 18h. L'émission qui va sauver la planète.